Merci Jean-Yves, bonjour à tous. Pour les habitués, nous changeons un tout petit peu le sens du culte, parce que le thème de la prédication ce matin est peut-être approprié à ce que nous célébrions la scène après. Début d'année, il est permis de rêver. Imaginez un petit peu, vous vous réveillez au matin du 1er janvier. Vous avez votre radio réveil, ou alors vous mettez la radio, vous écoutez les infos, et là, vous entendez le journaliste qui vous annonce une nouvelle fracassante qui fait le tour des médias. On a trouvé, en ce début d'année, l'homme providentiel. Celui qui a la réponse à tous les problèmes de notre pays. Bon, c'est pas François Hollande, hein, mais je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Pardon, c'est une plaisanterie. L'homme providentiel qui a réponse à tous les problèmes du pays, tous les problèmes de notre société actuelle, et au-delà de notre pays, le monde, tous les problèmes, il a réponse. Et il invite les auditeurs à téléphoner et dire « qu'est-ce que vous aimeriez que cet homme enlève ?» Qui le premier auditeur appelle, qu'il enlève le chômage. Un autre appelle, qu'il enlève la violence. Et puis vous aussi, vous appelez, vous dites qu'il enlève quoi ? Quels sont vos vœux ? Que cet homme providentiel qui en a le pouvoir et apparemment, par rapport à tous les autres du passé, lui, il est crédible. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il enlève ? Plus d'impôts. Ensuite, qu'il enlève la pauvreté de notre monde. Qu'il enlève la guerre. Qu'il enlève la maladie, l'injustice, la débauche, le péché. Cette annonce aussi fracassante, il y a 2000 ans, il y a un homme qui avait gagné sa crédibilité auprès du peuple d'Israël par une vie authentique. Il vivait dans le désert, dans le dénuement, dans la simplicité. Il vivait dans une grande humilité. Joe a prêché il n'y a pas longtemps sur ce thème. Il avait un message qui était lui aussi authentique et qui était percutant. Message de dénonciation du péché, d'appel à la repentance. Et le peuple lui a accordé cette crédibilité. Et puis, un jour, il a prononcé une phrase en voyant venir vers lui Jésus-Christ, et il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Vous pourriez croire peut-être qu'on a été complice avec Jean-Yves en choisissant les thèmes qu'il a choisis en introduction de ce culte, les chants qu'il a choisis, les chants que vous avez pu indiquer, mais rien de tout ça. Je crois que le Seigneur a fait les choses pour nous orienter vers ce passage que j'ai à cœur de partager avec vous. Et avec cette annonce, qui était une annonce fracassante pour la société de l'époque aussi, pour ce peuple d'Israël qui attendait depuis longtemps celui qui devait venir. Cette annonce fracassante, avec cette annonce fracassante, il introduisait ainsi le ministère de celui qui allait passer au devant de la scène, devant Jean-Baptiste. Et il allait lui céder la vedette, en quelque sorte, pour la suite du ministère. En disant cette phrase, Jean-Baptiste, qui auparavant avait déjà préparé le terrain, je vous l'ai dit, en dénonçant le péché, en appelant à la repentance, il plaçait le cœur de la mission du Christ dans le fait d'ôter le péché du monde. Le cœur de la mission de Christ, c'était le péché du monde. Le cœur de sa préoccupation, la raison de sa venue sur la terre, ôter le péché du monde. La société de son époque connaissait les mêmes difficultés que la nôtre. Le dénuement de certains, l'inégalité, l'injustice sociale, l'occupation par les Romains, au pouvoir des despotes qui étaient malhonnêtes, qui étaient corrompus au possible. Et cette société, elle s'est entendue dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et Jean-Baptiste, qui était conscient de tous ces problèmes de la société de l'époque, a résumé tous ces problèmes en un seul, c'est celui qui a été prononcé tout à l'heure pour aujourd'hui, le péché du monde. Tout se résume à ça. Une première question que nous pouvons nous poser, quelle place occupe le péché au sein de mes préoccupations? Est-ce que je le considère comme un aléa inévitable de la nature humaine? Vous savez, bon, c'est humain. Personne n'est parfait. Comme l'objet d'une grâce à avoir, bah, c'est pas si grave que ça, finalement. Ou est-ce que je considère le péché comme le problème radical de notre monde qui mérite une solution radicale également et que Christ s'est proposé d'apporter? Est-ce que le péché crée en moi, comme il a créé en Christ et en Jean-Baptiste, l'indignation, la tristesse, Jésus-Christ qui pleure sur Jérusalem? Est-ce que le péché crée en moi ces mêmes sentiments? Est-ce que le péché crée en moi, pour aller dans le sens de l'introduction de Jean-Yves, une attente indicible de la venue du royaume de Dieu, où le péché sera ôté? Et est-ce que ça fait monter en moi ce soupir, mais jusque à quand, quand je vois le monde autour de moi, jusque à quand? Le péché était au cœur de la mission de Jésus-Christ. Ou est-ce que le péché nous a tout simplement hypnotisés, anesthésiés, vous savez, comme le fait le serpent devant sa proie, la proie qui reste immobile devant cet agresseur? Continuons un petit peu à faire travailler notre imagination. Imaginons un monde sans péché. Nous venons de chanter, indiqué par Ginette, ce chant qui dit « L'aube est déjà là ». C'est-à-dire que, et Jean-Yves nous a conduit dans cette pensée, nous attendons l'instauration du royaume de Christ, où il n'y aura plus, et là, libre à votre imagination, et vous pourrez surabonder par rapport à ce que j'ai noté ici, simplement, il n'y aura plus de police. Il n'y aura plus de serrure aux portes de nos maisons, il n'y aura plus de clés, il n'y aura plus d'alarme, il n'y aura plus de garde, parce que le vol aura disparu. Il n'y aura plus d'armée, parce qu'il n'y aura plus de conflit entre les nations. Il y aura encore des impôts. Il y aura encore des impôts. Je m'étais dit, il n'y aura peut-être plus d'impôts, mais si, il y aura des impôts. Mais ils seront réduits de 50 à 75%, parce que ces impôts seront utilisés de manière juste et uniquement pour le bien de la société, pour l'éducation, même pas pour aider les pauvres, parce qu'il n'y aura plus de pauvres. Parce que chacun sera au travail pour le bien de tout le monde et recevra une juste rétribution à la hauteur de son travail. Il n'y aura donc plus d'inégalité. Il n'y aura plus de corruption. Il n'y aura plus de gaspillage et de vandalisme. Donc, il y aura des impôts encore, mais bien utilisés. Il n'y aura plus d'accidents, parce que sur la route, chacun respectera le code et sera respectueux des autres usagers de la route. Et on pourrait continuer comme ça. Il n'y aura plus de racisme, il n'y aura plus de prostitution, il n'y aura plus d'exploitation de l'homme par l'homme, il n'y aura plus d'esclavage dans certains pays. L'industrie du vice va s'effondrer. Plus de débauche, on disait tout à l'heure. Enfin, essayez d'imaginer. Moi, souvent, je me prends à imaginer un tel monde. Et ensuite, je regarde celui dans lequel je vis, mais je vois la distance. Et cette distance me fait de la peine, parce que ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Dans Ésaïe, au chapitre 65, verset 19, nous avons un bref aperçu de ce que serait ce monde. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, s'y installe par la force. Dans Ésaïe, au chapitre 2, le verset 4, il y a aussi cette promesse, cette prophétie, j'allais dire ce rêve, mais ce n'est pas un rêve, c'est une prophétie qui s'accomplira. pardon, je me suis trompé de livre, dans Ésaïe au chapitre 2, verset 4, et ce verset a été gravé sur le fronton du bâtiment de l'ONU aux États-Unis. De leurs épées, ils forgeront des charrues et de leurs lances des serpes. De ce qui était instrument de violence, d'agression et de meurtre, on fera des instruments de développement et de bien-être pour l'humanité. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Et on pourrait poursuivre avec cette description du royaume de Dieu lorsque Dieu aura définitivement ôté le péché du monde. Il y a de quoi rêver et de quoi, effectivement, comme le disait Jean-Yves, attendre et désirer ce jour. Quand on voit l'impact que cela aura sur le monde tout entier, sur l'humanité tout entière, sur nos vies personnelles. Par qui on commence ? Ôter le péché du monde. Jésus, investi de cette vocation, ne tiendra sa crédibilité à la réaliser, cette mission, que par le fait qu'il était lui-même sans péché. Et que Jésus a appris au cours de sa jeunesse, au cours de sa vie, l'obéissance, la soumission parfaite à son Père, qui se traduit par une vie sans péché. Aux pharisiens, qui étaient des pointilleux observateurs de la loi, il a lancé ce défi : qui d'entre vous me convaincra de péché ? Personne n'a été capable de le convaincre de péché. Parce que tout, dans sa vie, son caractère, ses pensées, ses actes, ses pas, ses paroles, tout était empreint de sainteté et de pureté, et il n'y avait pas de péché en lui. À ce titre, il est crédible de ce point de vue. La meilleure preuve que l'enjeu primordial pour Jésus était d'être lui-même celui qui était sans péché, avant de vouloir ôter le péché dans le monde, c'est que Satan, quand à peine il a été baptisé, à peine Jésus a été confirmé dans cette mission par ses paroles, devant tout le peuple par ses paroles de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait, Satan ? Il s'est présenté devant lui pour le tenter. Mais Jésus a résisté à cette tentation, il n'a pas péché. Un Jésus qui aurait cédé à une seule de ces tentations, qui peuvent nous paraître bien insignifiantes même par rapport à toutes celles que nous affrontons dans nos vies. Il aurait cédé à une seule, il ne serait pas le Fils de Dieu. Il n'aurait pas été crédible pour être celui qui montrait sur la croix en sacrifice parfait pour ôter le péché du monde. Jésus n'a pas cédé. Et Jésus, en commençant cette mission d'ôter le péché du monde par lui-même, par une vie de sainteté, il nous indique aussi un chemin par rapport à notre aspiration que nous avons peut-être d'un monde plus juste, d'un monde plus droit, d'un monde sans violence, d'un monde où il n'y a plus d'inégalité, où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus tout ce que nous avons évoqué à juste titre tout à l'heure. C'est par nous que ça doit commencer. Une priorité qui doit devenir personnelle. Sommes-nous prêts à faire de cela une priorité pour chacun d'entre nous ? Je ne parle plus de l'échelle du monde maintenant, mais de chacun d'entre nous. De nous dire, si mon souhait fervent est que le péché soit ôté, qu'il soit ôté d'abord de ma propre vie. Et des questions viennent à ce moment-là. À quel point est-ce que mon péché personnel m'attriste lorsque je pêche ? À quel point est-ce que je pourchasse cette bête vénéneuse qui est en moi, cette bête destructrice, cette bête de perdition qui m'habite depuis ma naissance irrémédiablement ? Dans ses confrontations avec les pharisiens, Jésus a eu maintes occasions de préciser peut-être les choses concernant cette notion du péché. C'est une notion qui avait été dévoyée de son vrai sens par ces pharisiens. Et je voudrais utiliser une image avant de développer un petit peu ce chapitre. Le virus du sida, qui conduit nombre de personnes à la mort, a un mécanisme d'action qui est particulier entre tous les virus. C'est qu'il s'attaque aux défenses même de l'organisme, aux cellules qui sont censées précisément être celles qui doivent lutter contre lui. Eh bien, il s'attaque à ces cellules et les détruit. Et il y a là toute une image. Est-ce qu'il n'en est pas un petit peu de même pour le péché ? À savoir que nous nous laissons entraîner dans un certain nombre de considérations sur le péché qui affaiblissent, qui détruisent même notre défense contre le péché. Et nous devenons ainsi totalement vulnérables. Vulnérables au péché et vulnérables aussi au jugement de Dieu de ce point de vue-là. Un des premiers que Jésus a dénoncé auprès des pharisiens, c'est leur propre justice trompeuse, le sentiment de leur propre justice. À me considérer tellement juste, selon des critères unanimement admis, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne dis pas de mensonge, je ne commets pas l'adultère, etc. À me considérer à ce point juste, et puis je suis un chrétien évangélique dans la bonne connaissance de la parole de Dieu, dans l'orthodoxie de l'interprétation, à me considérer effectivement, et peut-être est-ce que je n'ai pas tort, meilleur que beaucoup autour de moi. Est-ce que je ne passe pas à côté de cette présence du péché en moi ? C'est ce que faisaient les pharisiens, stricts observateurs de la loi et d'une loi qu'ils avaient élaborée à leur image, dans la dureté, dans la rigueur. Ils étaient aveuglés par leur propre image, un peu comme Narcisse qui se contemple dans l'eau et qui s'y noie. Ils se voyaient tellement beaux et justes. Un des deuxièmes dévoiements des pharisiens, le défaut d'identification du péché. À force d'identifier depuis notre plus tendre enfance le péché au fait de tromper, de voler, de mentir, de tuer, de commettre l'adultère, etc. Chose toute juste en elle-même. Je risque de passer à côté de ce qui est bien plus grave aux yeux de Dieu et qui était le problème de ces pharisiens rigoristes et légalistes, à savoir l'orgueil, la toute-suffisance, l'arrogance, l'indépendance de Dieu, l'idolâtrie. Et nous sommes entraînés à cela par une certaine idéologie dans notre monde, à savoir que nous nous suffisons à nous-mêmes, que nous devons nous accomplir en nous-mêmes, que le Dieu, ben c'est l'homme-Dieu. Un philosophe a écrit un tel livre. Nous sommes notre propre Dieu. Et donc, au final, nous avons perdu la notion de ce qu'est réellement le péché devant Dieu. C'est le jeune homme riche qui avait tout observé de la loi, mais un seul des commandements. Dieu n'était pas à la première place dans sa vie. Et c'était quelqu'un de bien quand même, par rapport à beaucoup de ses contemporains, beaucoup des gens de notre monde, peut-être même beaucoup d'entre nous, peut-être moi, il était même mieux, au vu de certains critères d'identification du péché, qui ne sont pas forcément les bons et ceux que Dieu utilise dans sa parole. L'accoutumance. Certains péchés sont devenus tellement coutumiers dans nos vies, des addictions de tout type, je ne veux pas citer des choses précises, des modes de penser, de vivre, une influence de notre monde autour de nous, de la culture, des médias, etc., qui transforme peu à peu notre pensée d'une façon régulière, que nous sommes accoutumés à ces choses. Des passions, peut-être dans nos vies, qui sont devenues de réelles idoles, sans que nous soyons capables de les identifier en tant que telles et de les reconnaître en tant que telles. Mais non, j'ai que ça pour passion. Oui, mais si c'est devenu une passion dévorante et qui prend la place de Dieu, qui te conduit peut-être à ne pas hésiter à louper une rencontre avec tes frères et sœurs pour aller voir ceci ou voir cela, ou faire ceci ou faire cela, pose-toi la question, est-ce que réellement ce n'est pas une idole devant Dieu ? Et Dieu condamne fermement les idoles. Et puis ce que j'ai appelé les « vous avez appris, mais moi je vous dis ». Vous connaissez ce serment sur la montagne où, à plusieurs reprises, comme un refrain, cette formule revient de la part du Seigneur. Le serment sur la montagne se termine par une injonction très forte. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et Jésus, dans le discours, a décliné un certain nombre de « mais moi, vous avez appris, mais moi, je vous dis ». C'est-à-dire, vous avez appris par votre éducation, vos parents vous ont enseigné la morale, à l'école, on vous l'a dit de cette morale. Bon, les pharisiens, à la synagogue, on vous a dit ce qui était bien de faire, pas bien de faire, etc. C'est-à-dire que vous avez un bagage de définition du péché avec lequel vous avancez dans la vie, et moi j'arrive Jésus-Christ et je vous dis autre chose. Et je vous dis bien au-delà de ce que vous avez appris. On va prendre quelques exemples. On va lire dans Matthieu au chapitre 5. Simplement, vous pouvez prendre Matthieu 5, on lira quelques-unes de ces expressions. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, vous avez appris donc, tu ne tueras point. Une donnée universellement reconnue, acceptée, celui qui tuera sera passible du jugement. C'est un acquis, ça. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, c'est-à-dire du même jugement que celui qui est infligé pour le meurtre. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « insensé », on dirait peut-être autre chose aujourd'hui, mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Vous avez appris qu'il y a un passage à l'acte qui est condamné par Dieu. Passage à l'acte, c'est le meurtre. Et il dit, formulez par des paroles votre haine ou par des émotions négatives, la haine, la colère, la jalousie, l'envie, le souhait que le mal lui arrive, vous met au même niveau que le passage à l'acte. Et l'apôtre Jean, dans son épître, dira que celui qui a de la haine pour son frère est pire qu'un meurtrier. Il est pire qu'un meurtrier parce qu'il n'a même pas eu le courage de passer à l'acte. Le meurtrier, lui, il est passé à l'acte. Et il est pire. C'est-à-dire que des passages à l'acte dont nous avons tous acquis le fait que c'est pas bien, c'est pas bien de tuer, c'est pas bien de voler, c'est pas bien de faire ceci et cela. Il y a un certain nombre d'émotions ou de paroles qui sont tout à fait synonymes, qui sont tout à fait équivalentes en termes de gravité et sont l'expression du même fond de notre cœur, c'est-à-dire le péché. Une deuxième chose, dans les versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il est unanimement admis que commettre l'adultère, enfin à l'époque, il était unanimement admis, aujourd'hui ça a beaucoup changé, mais que commettre l'adultère, c'était mal, c'est pas bien. Ça, vous l'avez appris à l'école, vous l'avez appris à la synagogue, vous l'avez appris dans la lecture de la loi, dans les commandements, etc. Mais moi, je vous dis, Jésus place la barre au-dessus. Mais moi, je vous dis que si dans vos pensées, vous avez alimenté des fantasmes, des projets, des images, dans vos pensées ou devant vos écrans aussi, hein, si vous avez alimenté tout cela, équivalent, c'est kiff-kiff. Pareil, même jugement, c'est le péché. Jésus dénonce aussi un certain nombre de péchés que j'ai appelés les péchés de religiosité. Là-dessus, les pharisiens étaient spécialistes, mais nous ne sommes peut-être pas moins bons. L'incohérence. la sainteté du dimanche, du jour du Seigneur. Et puis la semaine, il en va tout autrement. Dans nos familles, dans notre couple, dans notre milieu professionnel, dans notre milieu d'études. Mais le dimanche, nous arrivons, costume cravate, avec une belle Bible sous le bras, avec des grands sourires évangéliques. Excusez-moi, je caricature. Hein. Mais et la semaine, nous sommes tout autres. Ce que j'appelle le péché d'incohérence. Le péché de démonstrativité. Un petit peu similaire, mais délibérément, nous affichons une sainteté de bon aloi. Jésus le dénonce toujours dans le chapitre dans le Sermon sur la montagne. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. C'est-à-dire, le souci de l'affichage d'une sainteté, de bon aloi, pour faire bonne image, bonne impression, sans rapport avec une triste réalité dans le cœur. La triste réalité de notre vie cachée. Et à plusieurs reprises, Jésus va insister, mais Dieu qui voit tout, Dieu qui voit dans le secret, c'est-à-dire ce que nous cherchons à faire simplement pour paraître et pour masquer peut-être une face noire de notre existence, de notre cœur, Dieu, lui, le met en lumière et il le voit. Mais nous croyons jouer cette comédie de l'hypocrisie, du masque, en démontrant une vie de sainteté. La troisième chose, ce que j'ai appelé la bonne conscience au rabais. Dans Matthieu au chapitre 15, Jésus va dénoncer, on ne va pas lire tout le passage, le comportement de pharisiens qui disent à leurs parents, « Voilà, vous êtes dans le besoin, mais sachez, mes chers parents, que je ne vous donnerai rien parce que ce que j'aurais pu vous donner ou ce que j'aurais dû vous donner, je l'ai offert au Seigneur en offrande. » Au temple. Je suis quitte devant Dieu, mais vous restez dans votre misère. Et Jésus dénonce l'hypocrisie d'un tel comportement. Et est-ce que nous ne sommes pas des fois dans ce même type de comportement? De faire telle ou telle chose en nous disant, de toute façon, ça y est, hein, moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai une bonne conscience, je peux me présenter devant Dieu. Nickel. Et Jésus dit non. Parce que vous avez manqué le cœur du commandement, c'est-à-dire ce que vous avez dans votre cœur quand vous faites cela. Reconnaissons donc que nous ne sommes pas en reste, nous chrétiens, par rapport à ce jeu des expressions. Vous avez appris notre code moral de base, ce que nous apprenons à l'Église, ce que nous entendons prêcher. Et nous n'en sommes pas encore passés à ce stade ultérieur qui est celui que Jésus-Christ veut nous enseigner. Mais moi, je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a des exigences supérieures de Christ à notre mode de vie habituel qui est très satisfaisant et qui, en plus, nous en glorifions, est tellement au-dessus de beaucoup de personnes de notre temps, de nos contemporains et de notre entourage. Pour un début d'année, cette prédication pourrait paraître écrasante, culpabilisante. J'espère que vous ne la vivez pas comme ça, parce que ce n'est absolument pas mon intention. D'autant plus que je ne traiterai pas en détail, je n'en ai pas le temps, l'autre aspect de la chose, c'est que celui qui ôte le péché du monde, et pour ôter le péché du monde, il a commencé par le dénoncer. Il a commencé par donner un enseignement juste sur ce qu'est le péché, pour que les gens ne se conforment pas à l'enseignement erroné, factice, falsifié des pharisiens. Celui qui ôte le péché du monde, c'est l'agneau de Dieu. Nous l'avons chanté à plusieurs reprises ce matin. et l'agneau de Dieu, cette expression résume en elle-même tout le remède, le quand, le où, le comment de cette mission essentielle à laquelle Christ s'est attaché, c'est-à-dire d'ôter le péché du monde et de nos cœurs endurcis. C'est là qu'à l'échelle universelle, Jésus-Christ a vaincu le péché. Le péché n'est plus quelque chose qui nous tient irrémédiablement dans l'esclavage. Nous avons une possibilité de ne plus être esclaves du péché. Le prince de ce monde a été vaincu à la croix. Il n'a plus qu'un pouvoir résiduel, temporaire, éphémère. Il n'est plus celui qui dirige ce monde. Jésus-Christ est ressuscité et il est assis sur le trône. Et nous l'avons chanté ce matin. À l'échelle plus personnelle, Christ à la croix, parce que c'est là le lieu du rendez-vous pour l'agneau de Dieu. Ça fait référence au sacrifice de l'ancienne alliance. Ça fait référence aux prophéties d'Ésaïe. C'est à la croix que Jésus a payé pour mon péché, passé, présent et à venir. Il en a payé tout le prix. Il ne reste rien à payer. Je n'ai pas à m'investir dans un sacerdoce d'ascétisme, de pénitence ou quoi que ce soit. Christ a tout payé. Et nous allons le célébrer par ce repas dans les minutes qui vont suivre. Et donc à l'échelle individuelle, je suis maintenant adopté par Dieu pour être une nouvelle créature. Il a donné un cœur nouveau dans lequel son esprit grave une nouvelle loi qui est juste celle-là, qui n'est pas la loi des pharisiens, qui est la loi de l'amour de Dieu. Et par amour pour Dieu, j'ai le juste discernement de tout ce qui est péché. Et avec l'esprit de Dieu qui m'habite, j'ai tous les moyens pour remporter la victoire sur le péché et grandir dans la sainteté pour notre Père et pour le glorifier dans ma vie. Le remède, le où, le quand, le comment sont ici. C'est à la croix. Donc, culpabilisante ou écrasante? Non. Mais mon vœu, ma résolution que le Seigneur me met à cœur, d'abord pour moi-même et pour toute notre communauté, c'est que le péché soit véritablement, comme pour Jésus-Christ, considéré comme le problème numéro un de notre monde et de notre existence personnelle, de notre individu. Que nous ayons vraiment à cœur la motivation, par la grâce de Dieu et dans la grâce de Dieu, de le pourchasser dans les moindres recoins de nos vies. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour mettre l'éclairage, pas d'un coup, ce serait étouffant, mais progressivement dans nos vies, si nous voulons bien rester perméables et ouverts à cet Esprit de Dieu, sur les zones de nos vies, dans notre caractère, dans nos paroles, dans nos actes cachés ou évidents, dans tous ces domaines que l'on a pu balayer dans cette prédication, le Saint-Esprit peut mettre la lumière pour nous aider à aller vers une repentance sincère devant notre Dieu et vers un changement de vie que peu à peu son Esprit opère. Nous tombons, c'est normal. Nous tomberons encore, c'est normal. Mais nous avons un chemin de retour vers le Seigneur qui nous est perpétuellement rappelé par la parole de Dieu. Que Christ puisse être véritablement le modèle pour nos vies, dans ce que nous voyons de sa vie, de son caractère, de ses œuvres, de ses paroles, de son enseignement, de ses relations, que Christ puisse être notre modèle et que le Saint-Esprit puisse donc nous illuminer les uns et les autres par sa puissance, de façon à ce que nous devenions véritablement dans le concret les enfants de Dieu qu'il a voulu adopter et que nous puissions le glorifier de tout cela. Amen. Je vous invite peut-être à un petit instant de réflexion et de silence ici. Avec le groupe de musique, nous pourrons chanter un chant si votre cœur est tourné vraiment vers cet objectif. C'est le chant 212.